Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique.
Les béatitudes sont parmi les plus connues des paroles prononcées par Jésus. Mais que signifient-elles?
Étienne est de retour parmi nous pour nous aider à les comprendre.
Dans la série que nous continuons, nous abordons aujourd'hui la cinquième béatitude que voici. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde.
Merci Hélène. Ce texte se trouve dans le chapitre 5 de l'Évangile de Matthieu, au verset 5. À présent, le moment est venu d'accueillir notre invité. Étienne, bonjour.
Merci Yann et bonjour à tous. Lors de nos deux dernières émissions, nous avons réfléchi sur la miséricorde de Dieu telle qu'elle est révélée d'abord dans l'Ancien Testament, puis ensuite pendant la vie de Jésus-Christ et au moment de sa mort. La miséricorde de Dieu s'exprime d'abord par sa compassion envers ceux et celles qui sont abattus et éprouvés, en leur apportant un secours. Ensuite, la miséricorde de Dieu s'exprime par la compassion qu'il éprouve envers le pécheur, car il est prêt à nous pardonner, et il désire nous réconcilier avec lui. Mais ce pardon et cette réconciliation reposent sur le sacrifice coûteux de Jésus-Christ mort sur la croix.
Merci Étienne pour ce petit résumé. Dans la béatitude lue tout à l'heure, Jésus nous enseigne que le chrétien doit rechercher à être miséricordieux dans ses relations avec son prochain.
Oui, et la Bible nous enseigne que le chrétien doit aspirer à suivre l'exemple de Jésus. Or, Jésus était un homme miséricordieux et nous sommes appelés à l'imiter. Ou bien, considérons les choses ainsi, puisque nous avons reçu la miséricorde de Dieu, il est normal qu'à notre tour, nous pratiquions la miséricorde envers tous.
Comment donc pratiquer la miséricorde?
La miséricorde, c'est avoir compassion des personnes éprouvées de diverses manières dans notre entourage. Ensuite, c'est agir pour leur venir en aide, pour leur apporter un secours ou un réconfort. La miséricorde, c'est aimer son prochain de façon concrète et appropriée. Nous connaissons peut-être des gens atteints de maladies graves, telles que le sida par exemple. Nous connaissons peut-être des orphelins ou des veuves. Nous connaissons peut-être de jeunes chômeurs. Nous pouvons connaître des personnes victimes de violences ou de maltraitances, des réfugiés. Nous n'avons pas besoin de réfléchir longtemps pour savoir qu'il y a autour de nous des personnes qui sont éprouvées et qui sont dans la détresse. Certains préfèrent rester indifférents au sort des nécessiteux. Ils ferment les yeux et les ignorent. D'autres vont jusqu'à exploiter ou abuser de ces personnes. Le chrétien, lui, est appelé à avoir compassion d'elles et à faire ce qu'il peut pour leur venir en aide.
Nous avons tous nos propres soucis et préoccupations. Et les besoins autour de nous sont parfois si grands et nos moyens si limités que nous pouvons nous sentir rapidement dépassés.
Oui, c'est bien vrai, Yann. Mais Jésus ne nous appelle pas à tout faire. Il ne nous appelle pas à venir au secours de tout le monde. Cependant, il nous appelle à faire quelque chose, à faire ce que nous pouvons, même s'il s'agit de gestes qui nous semblent très modestes ou insignifiants. Il n'est pas trop difficile de rendre visite à des personnes malades et alitées, et pourquoi pas leur proposer de l'aide pour le ménage ou les courses. Il n'est pas trop difficile de partager son repas avec quelqu'un qui a réellement faim. Pourquoi ne pas se lier d'amitié avec une personne seule et marginalisée? Pourquoi ne pas aider dans l'accompagnement scolaire un enfant orphelin ou en difficulté? Même les petits gestes de bonté ont de la valeur et sont appréciés. Et puis, il y a sans doute de nombreuses œuvres caritatives qui cherchent des bénévoles pour s'associer à leur programme d'assistance. Nous pouvons réfléchir à nos compétences et à la manière dont nous pourrions les mettre à la disposition d'une association. Et souvent, il suffit simplement d'avoir un bon cœur et de la bonne volonté pour s'impliquer dans ces œuvres.
Merci Étienne pour cette perspective utile et encourageante. Nous sommes souvent trop rapides pour trouver des raisons pour ne pas aider, au lieu de nous demander ce que nous pourrions faire.
C'est bien vrai, Yann. Alors, avant de poursuivre nos réflexions sur la miséricorde, je voudrais rappeler une leçon importante. Nous pratiquons la miséricorde et nous aimons notre prochain, non pas pour mériter la bénédiction de Dieu, ni pour obtenir sa miséricorde en récompense. Non, nous avons compassion des nécessiteux et nous leur venons en aide parce que nous avons déjà reçu toute la grâce et la miséricorde de Dieu et qu'agir ainsi est un moyen de lui exprimer notre reconnaissance.
Merci, c'est effectivement un rappel important. Nous avons aussi appris que Dieu fait preuve de miséricorde envers nous quand il pardonne nos péchés.
Oui, et c'est sur cet aspect de la miséricorde que je voudrais réfléchir maintenant. En illustration à cela, Jésus a raconté une parabole que je résume ainsi. Un ouvrier devait à son roi une dette énorme, des milliards de francs. Or, il était dans l'impossibilité de la lui rembourser. Heureusement pour lui, le roi a fait preuve de miséricorde envers lui en décidant d'annuler la dette de cet ouvrier. Et ce dernier a pu ainsi repartir libéré de son grand fardeau. Et pourtant, le lendemain, ce même ouvrier a demandé à l'un de ses collègues de lui rembourser une dette de quelques milliers de francs. Or, ce collègue ne pouvait pas le faire et il le supplia de retarder l'échéance. Toutefois, l'ouvrier a refusé de répondre favorablement à sa demande et il l'a même menacé de le conduire devant les tribunaux. Trouvez-vous qu'il a agi avec bonté ?
Non, pas du tout. Il a agi de façon choquante.
Oui, et c'est justement la conclusion que Jésus veut que nous en tirions. La leçon qu'il veut nous faire passer à travers cette parabole est celle-ci. Puisque Dieu, selon les richesses de sa miséricorde, nous a pardonné nos péchés au prix du sacrifice de Jésus-Christ, alors nous aussi, nous devons être disposés à pardonner les fautes de ceux qui nous offensent. Malheureusement, il arrive trop souvent que des personnes dans notre entourage agissent d'une manière qui nous déplaise, en nous offensant ou en nous faisant du mal. Lorsque cela arrive, nous n'avons pas toujours les bons réflexes, car nous pouvons rapidement juger ou condamner ces personnes du fait de leurs paroles ou gestes. Nous pouvons les dénoncer ou les critiquer auprès d'autres, et trop souvent, nous leur voulons du mal, ou nous passons à des actes de vengeance. Cela n'est pas agir avec miséricorde. Lorsque nous réagissons ainsi, nous montrons que nous avons oublié l'énorme dette de nos péchés que Dieu nous a enlevés grâce à Jésus. Nous montrons que nous avons oublié la miséricorde de Dieu et le sacrifice coûteux de Jésus-Christ. Écoutons, avant de conclure notre discussion, la lecture de Paul aux Colossiens, au chapitre 3, les versets 12 à 14.
Ainsi, puisque Dieu vous a choisi pour lui appartenir et qu'il vous aime, revêtez-vous d'ardente bonté, de bienveillance, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un de vous a quelque chose à reprocher à un autre, pardonnez-vous mutuellement. Le Seigneur vous a pardonné. Vous aussi, pardonnez-vous de la même manière. Et par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien par excellence.
Merci. Ces versets nous aident à comprendre comment la miséricorde de Dieu doit façonner nos relations personnelles. Il n'est pas toujours facile de s'entendre les uns avec les autres. Lorsque nous reflétons la miséricorde de Dieu, nous cherchons à comprendre le point de vue et les agissements de l'autre, et nous ne portons pas de jugement hâtif. Paul met en avant les qualités telles que la patience et la douceur, l'humilité aussi. Et puis, plus important encore, Paul nous exhorte à pardonner à ceux qui nous offensent ou qui nous blessent. Pourquoi pardonner ? Parce que Jésus, le premier, nous a pardonnés.
Merci Étienne, et à bientôt. À présent, le moment est venu de commencer notre courte méditation biblique. Pour accompagner cette série sur les béatitudes, nous nous pencherons sur les paroles du livre du prophète Ésaïe et nous poursuivrons avec le thème de la miséricorde. Claude est de retour parmi nous pour nous faire part de ses réflexions. Mais d'abord, écoutons la lecture du livre d'Ésaïe au chapitre 58, les versets 9 à 11.
Si du milieu de toi tu supprimes le joug de l'oppression, les gestes menaçants et les propos méchants, si tu donnes ton pain à celui qui a faim et si tu pourvois aux besoins de l'opprimé, la lumière luira pour toi au milieu des ténèbres et ton obscurité se changera pour toi en clarté de midi. Et l'Éternel sera ton guide constamment. Il pourvoira à tes besoins dans les déserts arides, et il te fortifiera, et tu ressembleras à un jardin bien arrosé. à une source vive aux eaux intarissables.
Merci et bonjour à tous. Déjà dans l'Ancien Testament, la pratique de la miséricorde est associée à des promesses de bénédiction. Car Dieu a à cœur ceux qui sont opprimés et éprouvés, et il désire leur venir en aide par l'intermédiaire de son peuple. En effet, le peuple de Dieu est appelé à refléter sa compassion et la bonté de Dieu envers tous, et en toutes circonstances. Quand un peuple s'éloigne de Dieu, les injustices et les oppressions se multiplient, et de ce fait, les pauvres, les vulnérables et les gens marginalisés souffrent de plus en plus. C'est dans un tel contexte que le prophète Ésaïe appelle le peuple à revenir à Dieu. Toutefois, pour vivre de nouveau sous la bénédiction de Dieu et jouir de sa miséricorde, le peuple doit changer. Il doit renoncer à ses pratiques égoïstes. Au lieu d'exploiter et d'opprimer ceux qui sont en difficulté, le peuple doit venir en aide à ces personnes et défendre leurs droits. Au lieu de s'enrichir au détriment des pauvres, le peuple doit redevenir généreux et aider ceux qui ont des difficultés à s'en sortir. Si l'on désire vivre dans un pays meilleur et une société bénie, il faut travailler pour faire disparaître les injustices. Il faut rechercher autant que cela est possible le bien-être de tous. Lorsque nous reflétons la compassion de Dieu et agissons en faveur de ceux qui sont éprouvés, alors nous travaillons en étroite collaboration avec le Seigneur. Et le prophète déclare que cette collaboration portera ses fruits, car des situations et des vies, des familles et des quartiers, et même des pays peuvent être transformés par la bénédiction de Dieu. Ésaïe écrit cette transformation de façon très poétique et imagée. Il parle de la lumière qui vient chasser les ténèbres. Il parle des sources d'eau qui changent un désert aride en un beau jardin. Oui, par nos gestes de compassion en faveur des gens éprouvés, nous pouvons permettre à Dieu de réellement changer des vies. Et lorsque nous allons vers les nécessiteux pour leur apporter du secours, Ésaïe nous donne une promesse. Dieu sera avec nous. Il nous conduira par sa sagesse et il renouvellera nos forces par sa main puissante.
Merci Claude pour ces encouragements à aimer notre prochain. Nos deux invités seront de retour la prochaine fois pour continuer nos deux séries. En attendant de vous retrouver bientôt, je vous dis au revoir.
Au revoir et que Dieu vous bénisse.